complètement à l'Est sur RCN.
Bonjour Elfenoul, je suis très content de vous retrouver comme tous les vendredis dans Complètement à l'Est. Aujourd'hui pour notre micro-trottoir à l'occasion du 31 mars 2024, la journée internationale de la visibilité transgenre, nous irons demander à des personnes transgenres si maintenant dans notre société ils pensent avoir plus de visibilité et pourquoi elles sont importantes d'avoir ce type de journée. Pour notre invité de la semaine, nous recevrons Elodie, une créatrice de logos et d'identité visuelle éco-conçue. Et pour commencer, nous irons à la découverte du trolleybus de la métropole du Grand Nancy avec des témoignages de conducteurs de bus et des usagers.
RCN, complètement à l'Est, Elfenoul.
Belle journée aujourd'hui, on a l'occasion de visiter le nouveau trolleybus qui parcourra bientôt la ligne 1 de la métropole du Grand Nancy. Les gens sont au rendez-vous, il fait beau, il y a de grandes vitres qui permettent d'admirer la vue depuis la rue Saint-Jean. Les gens ont l'air assez enthousiastes pour l'instant, une belle couleur bleue je crois. Et voilà, on a hâte que ça démarre.
Ça démarre quand d'ailleurs ?
Ça démarre, alors c'est prévu pour l'hiver 2024-2025, donc pas de date précise encore, mais voilà, hiver 24-25.
D'accord, merci. Donc c'est deux véhicules qui sont différents. Celui-là, si on parle de l'ancien, c'est un véhicule qui est électrique de bon bout, de Mont-Saint-Péry jusqu'à CHU. Ouais. Donc on dépêche quand il faut, mais celui-là c'est autre chose. Il y a des endroits, on roule sur batterie, ouais, électrique. Et sont électriophiles. Quoi. Okay. Les perches sont descendues. Par exemple, on part de Mont-Saint-Péry jusqu'à Division de Fer en électrique, ouais. On sort avec des perches. Et puis, on peut traverser aussi, où sont les perches, jusqu'à Mont-Désert. Okay. Après, on va percher jusqu'à Jean Jaurès. Ouais. Et on va dépercher au Mont Général Leclerc en batterie. Presque pareil. C'est ça. Peut-être c'est l'inconvénient pour les conducteurs parce que voilà, on préfère que ce soit électrique. De pourquoi pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est un choix.
Vous avez hâte de le conduire ce trolley?
Oh, on attend avec impatience, sincèrement.
Et ce sera quand que vous pourrez le conduire
On commence la formation dès que possible. Ouais. Quand les infrastructures sont opérationnelles, tout est fini. Et puis on attend la formation pour se lancer complètement dedans. Quoi.
D'accord.
Et les collègues aussi, ils ont hâte de...
Vous êtes tous impatients.
Impatients, sincèrement. Et puis, j'ai pleuré quand l'ancien tram est parti. Ouais. Pleuré de tristesse, mais là, je vais pleurer. De joie, c'est différent, c'est autre. Voilà.
Alors moi je suis passionné de transport et donc j'ai déjà eu l'occasion de le voir deux fois et donc j'ai déjà mon petit avis. Franchement je trouve qu'il est beau, il est très grand et il y a énormément de place. Je pense que ça va faire, par exemple en heure de pointe, ça va être beau, ça va être pratique surtout. Malgré que j'aime pas trop la couleur du ciel, sinon le reste j'adore. J'aime énormément la grande baie vitrée à l'arrière. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser et ça va être très joli. Et puis j'ai très hâte quoi, j'ai très hâte.
Moi ouais, non franchement il est beau, il est classe hein. Ça change hein, c'est moderne.
Ouais.
Puis il a l'air d'avoir assez de place. Donc ouais c'est cool hein. Il y a même des prises pour charger le téléphone là. Ouais ça va, c'est cool.
On connaît très bien ce bus, ouais. Car je viens de Lausanne, en Suisse, mmh. Et nous on a les mêmes bus, ces grands bus là, ils sont très beaux, très confortables, la place pour les gens, c'est vraiment... Nancy a fait une belle opération d'acheter 25 bus, qualité suisse.
RCN, complètement à l'Est, Elfenoul.
Vous aussi, si vous souhaitez découvrir le nouveau trolleybus, il sera disponible à Essey-le-Nancy les 29 et 30 mars devant l'hôtel de ville, à Saint-Max, les 5 et 6 avril, place Gérard Barrois, et à Vendeuvre-les-Nancy, les 12 et 13 avril, station Vélodrome, de 10h à 18h en continu. Et maintenant, écoutons Speed It On de Paul McCartney.
Spin it on, don't stop, take it back to the top. 'Cause I've got another.
RCN, complètement à l'Est, Elfenum.
Aujourd'hui pour notre micro-trottoir, à l'occasion du 31 mars, la journée internationale de la visibilité transgenre, nous demandons à des personnes transgenres si maintenant dans notre société ils pensent avoir plus de visibilité et pourquoi est-ce important d'avoir ce type de journée.
Alors le 31 mars c'est surtout une journée de mobilisation où on va dénoncer les violences que l'on subit et qui augmentent d'année en année. Il y a qu'à voir aussi le rapport de SOS Homophobie qui relaye des données sur les violences que subissent les personnes transgenres et qui augmentent en France, notamment avec la montée de l'extrême droite et de groupuscules réactionnaires. Alors effectivement, on est beaucoup plus visible et ça, c'est hyper positif. Il y a de plus en plus de personnalités médiatiques visibles. On a beaucoup plus de séries, de films où on aborde la transidentité ou alors des personnages transgenres sont mis en avant. Mais cette visibilité ne veut pas dire qu'elle nous permet une sécurité, qu'elle nous permet plus de droits, qu'elle nous permet plus de liberté. Bien au contraire, ça nous fragilise aussi, ça nous rend aussi plus vulnérables et également plus sujets aux violences puisqu'on est plus visible. Et nos droits sont encore loin d'être acquis. On le voit encore au Sénat qui veut faire passer une loi pour empêcher les enfants transgenres de transitionner. On le voit aussi dans les débats médiatiques qu'on laisse pas la place en fait aux personnes transgenres de s'exprimer. On parle en notre nom. Voilà, et c'est beaucoup de violence de part et d'autre. On demande une meilleure prise en charge dans les milieux médicaux et dans les parcours de transition, qu'elles soient médicales ou administratives, parce qu'on subit énormément encore de discrimination et de pathologisation. On nous freine beaucoup dans ces démarches-là. On demande la reconnaissance de l'identité de genre de manière inconditionnelle et sur la base et le respect de l'autodétermination. On demande le fait d'être inclus aussi dans l'accès à la PMA, puisque les personnes trans sont évidemment exclues de l'accès à la PMA. Après, ça passe par énormément de choses, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit dans les milieux sportifs où il y a beaucoup de discrimination, de rejet. Donc voilà, il y a énormément de chemin et de travail à faire et c'est pour ça que le 31 mars c'est important, parce que ça nous permet de nous mobiliser et de faire prendre conscience aussi aux gens du manque de droits et de liberté que les personnes transgenres ont en France et de la difficulté que ça peut être d'être une personne transgenre en France.
Alors je pense que oui, les personnes transgenres ont plus de visibilité qu'avant, mais il faut continuer à montrer qu'on existe et qu'on est des êtres humains, et qu'on devrait être libre de notre corps et de nos choix. Et que les personnes trans devraient avoir le choix du coup sur leur transition, et pas que ce soit des personnes cisgenres qui choisissent à notre place. Donc pourquoi est-ce important d'avoir ce genre de journée ? Cette journée est importante car elle montre que la communauté est là et, comme je l'ai dit avant, montre qu'on existe et elle sert aussi à vouloir exprimer notre colère vis-à-vis de la transphobie et des lois anti-trans que certains gouvernements essaient de faire passer, comme par exemple aux États-Unis ou celles que les Républicains en France essaient de faire passer récemment pour empêcher les mineurs et jeunes adultes de transitionner librement.
On n'est pas assez sensibilisés au sujet et ce qui fait que on n'aime pas ce qu'on connaît pas et les gens ils sont plus réticents au sujet juste parce qu'ils le comprennent pas et qu'ils préfèrent ne pas s'y heurter.
RCN, complètement à l'Est, Elfenum.
On se retrouve dans un instant avec notre invitée de la semaine, Elodie. Pour l'instant, écoutons In the Flesh de Pink Floyd.
Thank you. show to feel the warm thrill of confusion and space cadet glow. I got some bad news for you, sunshine. It isn't well, he stayed back in the hotel and they've sent us along as a surrogate man. Tonight, get him up against the wall. Now there's one in the spotlight. He don't look right to me. Get him up against the wall. And that one looks Jewish. And that one's a cool. Who the hell is Riffraff into the room?
À l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec notre invitée Élodie Dubrulle. Comment tu vas ?
Très bien.
Alors, donc Élodie, tu étais là hier. Hier, on a organisé un afterwork qui parlait. Ça parlait de quoi d'ailleurs ? Dis-nous tout.
C'était un peu donc rassembler des entrepreneurs, ouais, et puis avoir du coup deux experts qui pouvaient répondre à leurs questions et du coup pouvoir échanger tous ensemble.
Et quelle a été la pertinence pour toi de cet événement ?
J'ai trouvé que c'était très bien d'avoir effectivement des experts qui étaient invités et puis d'avoir un public d'entrepreneurs, mais ça aurait pu peut-être être d'autres personnes suivant les thématiques. Oui. Effectivement, pouvoir poser ces questions en direct, avoir des réponses, du coup, j'ai trouvé que c'était très pertinent.
D'accord, merci beaucoup. Donc, tu es graphiste ?
C'est bien ça.
Tu es venu pour nous parler de ça aujourd'hui. Est-ce que du coup tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours ?
Oui. Alors donc du coup Élodie, comme tu l'as dit. Donc j'ai créé ma société donc EDGraph en 2022. Mm-hmm. Et donc je suis graphiste spécialisée dans la création de logos et d'identités visuelles. Okay. Mon parcours il est un peu atypique parce qu'avant ça donc j'ai exercé pendant 10 ans le métier d'assistante de direction. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'était un métier qui dans lequel je ne m'épanouissais pas. Et puis, le Covid est arrivé. Et ouais. Puis, j'ai eu le temps de réfléchir vu que j'étais un peu bloquée chez moi, comme beaucoup de monde. Ouais. J'ai décidé ensuite de faire un bilan de compétences que je voyais bien que ça n'allait plus le travail. Et puis, je me suis dit, avec ce qui s'est passé finalement, on se rend compte que la vie est courte, que ouais, tout peut changer du jour au lendemain. Donc, je me suis dit, non, c'est important de faire quelque chose qui te plaît. Mmh. Et donc, le bilan de compétences a effectivement révélé qu'il me manquait une grosse partie de créativité, c'était quelque chose que j'aimais vraiment et c'est ce qui me manquait dans mon travail. Et la seule partie finalement de mon travail qui me plaisait, c'est quand je faisais les réunions pour mes dirigeants en fait et que ouais, je faisais les visuels. Et en plus, tout le monde me disait que j'avais effectivement vraiment l'œil pour ça, okay, et que j'étais douée là-dedans. Et puis effectivement, le bilan de compétences a vraiment confirmé cela. Donc j'ai tout arrêté, j'ai fait la rupture conventionnelle, j'ai mm-hmm, refait une formation et me voilà aujourd'hui épanouie dans mon métier.
D'accord. Et du coup, pourquoi tu t'es dirigée vers assistante de direction ? Quelles ont été tes études que tu as faites pour te retrouver dans ce métier-là ?
Alors, quand je dis que mon parcours il est vraiment atypique, il est vraiment atypique. Parce qu'en fait, donc, j'ai fait un bac S. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'en terminale, malheureusement, j'ai perdu brutalement mon papa. Donc, donc après, ça a aussi un peu tout chamboulé mes études. Je suis partie en fac de lettres. Mmh. J'ai fait une licence en espagnol parce qu'à la base, je voulais être prof d'espagnol. Sauf que c'était le moment où il y a eu toutes les réformes, où ils ont bloqué les facs, etc. Donc ça a été compliqué. Je me suis dit non, écoute, là voilà, ça ne va pas le faire. Donc j'ai commencé à réfléchir. Et c'est vrai que c'était une période où j'avais besoin de prendre mon indépendance et puis donc de travailler vite. Donc je me suis dit de diriger vers un BTS en alternance.
Okay.
Et assistante de direction, sur le coup, je pensais que c'était un bon choix. Mmh. Mais c'est vrai que voilà, le problème, c'est que quand on est jeune, déjà, tout ce qui est bilan de compétences, choses comme ça, on n'y pense pas.
Ouais.
Les conseillers d'orientation, alors je ne sais pas si ça a changé actuellement, mais moi, de mon temps, ils ne servaient pas à grand-chose.
On dirait toujours qu'ils ne servent à pas grand-chose.
Et donc, c'est vrai que j'ai fait un peu des erreurs de parcours, mais finalement, c'est ce qui m'a aussi amenée là aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, ce que j'ai appris pendant mes 10 ans d'assistana, finalement, me sert aussi aujourd'hui puisque ça me permet de, comme j'étais le bras droit du dirigeant et j'étais vraiment à l'écoute du dirigeant, aujourd'hui je mets cette compétence là au service de mes clients et quand ils me demandent du coup quelque chose, je suis vraiment à l'écoute de leurs besoins pour vraiment répondre à leurs besoins sur mesure, quoi.
Ok. Et du coup après ce métier là, le bilan de compétences, comment tu t'es emmené vers ça? Est-ce qu'on t'a conseillé de faire un bilan de compétences?
Alors c'est moi en fait qui me suis dit change d'orientation, mais comme effectivement, donc comme je te disais, j'ai fait déjà pas mal de choses où finalement c'était une erreur et tout, je me suis dit cette fois-ci il faut pas que je me trompe, quoi.
Ouais.
Parce que c'est bien gentil mais on va pas reprendre des études indéfiniment, donc voilà. Et donc je me suis dit le bilan de compétences ça peut peut-être m'aider, mais effectivement ce que j'ai fait par contre c'est que je me suis dirigée vers un organisme qui faisait des bilans de compétences donc à distance, donc ça permettait effectivement de le faire en dehors des heures de travail, donc déjà ça pénalisait pas mon entreprise.
Ouais.
Et en plus c'était avec des gens qui étaient à la fois coach professionnel. Donc c'est vrai que j'ai vraiment été bien accompagnée et il y a toujours une partie, un moment du bilan de compétences où on est complètement perdu, on sait plus parce que du coup tout est possible mais en même temps faut trouver la bonne voie. Et c'est vrai que le fait d'avoir un coach qui derrière m'a poussé puis m'a re-questionné, ça m'a vraiment aidé à vraiment trouver la bonne voie. Et effectivement, je me rends compte aujourd'hui que je me suis pas trompée parce que quand je fais du graphisme je peux y passer des heures, je vois vraiment pas le temps passer, donc
c'est un peu ton métier passion, on va dire, aujourd'hui.
C'est ça.
Donc, est-ce que tu t'en doutais qu'un jour, tu aurais bien aimé faire ça ou c'est vraiment, tu l'as découvert d'un coup après le bilan de compétences?
Franchement, c'était un peu une surprise. Enfin, oui et non, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé créer et c'est ce qui me manquait. Et puis, c'est vrai que quand je préparais les réunions pour mes dirigeants, c'est vrai que tout le monde me disait, t'as l'œil pour la mise en page et tout. Mon ancien chef, il m'appelait l'œil de lynx. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait un alignement qui n'était pas, une faute d'orthographe, je voyais tout de suite.
D'accord.
Mais c'est vrai que finalement, après le bilan de compétences, quand ça a été noté, je me suis posé la question. Je dis, machin. Et puis, c'est vrai que c'est là où ma coach, elle a entré en jeu et elle m'a dit, mais pourquoi tu doutes? Tout t'emmène vers ça, tes tests de personnalité t'emmènent vers ça. Toi, finalement, dans ce que t'as fait jusqu'à maintenant, ça t'emmène vers ça. Donc, pourquoi tu doutes? Et puis, effectivement, elle avait raison. C'était bien, ça.
D'accord. Et du coup, le bilan de compétences, comment ça se passe? Il y a un test de personnalité, tu viens de dire, et on te propose plusieurs métiers.
Alors, t'as plusieurs étapes. Donc, au début, effectivement, si tu commences toujours à peu près... Enfin, en tout cas, moi, l'organisme avec qui j'ai fait, c'était test de personnalité. Donc, t'en avais plusieurs pour vraiment commencer à cibler ce que t'aimes faire et puis les différents métiers possibles. Après, t'as une partie où tu fais de la recherche et tu fais des enquêtes métiers. Donc, t'appelles des professionnels pour connaître vraiment leur quotidien, savoir ce qu'ils font et tout ça. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait aussi pour vraiment confirmer ça à la fin du bilan de compétences, c'est que j'ai fait un stage d'immersion chez une graphiste pour voir effectivement si c'était vraiment ce qui me plaisait, quoi.
Ok, donc le métier qui a été trouvé à la fin, c'était vraiment graphiste ou il y avait d'autres choses aussi qui allaient avec ça?
Non, c'était vraiment graphiste avec plutôt spécialisation, donc du coup logo, parce que ça j'aime beaucoup, et puis tout ce qui est flyer, carte de visite. Après sur le site internet, ces choses-là, j'aime beaucoup moins, donc ça je laisse à des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi là-dessus.
D'accord. Et du coup, après donc, ce bilan de compétences, et tu t'es dit, c'est bon, graphiste, c'est fait pour moi, qu'est-ce que tu as fait
Alors du coup, j'ai recherché une école pour faire une formation, parce que bien sûr, il fallait quand même me former.
Ouais.
Et donc, j'ai fait un titre professionnel.
Ok. Et après, tu as créé une entreprise ou
Et alors après, une fois que j'ai eu fait donc, la formation, que le diplôme était validé, etc., effectivement, j'ai créé l'entreprise et je me suis lancée de mes propres ailes.
D'accord. Et du coup, maintenant, ça fait combien de temps que tu as ouvert
Ça fait à peu près un an et demi.
Ok. Est-ce que c'est compliqué maintenant de passer donc à du salariat à auto-entrepreneuse ou
Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, mais après c'est hyper enrichissant parce que ben on voit plein d'aspects différents. On a à la fois notre cœur de métier, mais effectivement faut un peu faire de commercial, faut faire de la compta, faut faire voilà plein de cœurs de métier différents. Donc c'est hyper enrichissant et en termes de développement personnel, je sais que là en 6 mois de temps, donc de faire des after work, de voir d'autres entrepreneurs et tout, j'ai évolué. Mais comme enfin voilà, par exemple faire une émission de radio il y a encore 6 mois, mais impossible, c'était pas possible pour moi.
D'accord. Et du coup faut rappeler que tu travailles seul. Est-ce que c'est compliqué pour toi au quotidien ou ça te va très bien dans la mesure de ce que tu fais?
Alors travailler seul, c'est pas quelque chose de compliqué parce que c'est vrai que j'aime bien voilà m'organiser comme j'ai envie. Voilà. Après où ça peut être un peu compliqué, c'est que bah forcément on a plus cette partie où on a des collègues avec qui on peut échanger sur les problèmes et tout. Et c'est là où tous ces after work, ces matinales d'entrepreneurs sont importantes parce que finalement là on se met à échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques que nous. Donc du coup, on a ce soutien qu'on n'a pas quand on est vraiment tout seul chez soi.
Ok, donc au final, toi, ça ne te pose pas du tout de problème. Ça te va bien de travailler comme ça, mais en même temps, de sortir, découvrir d'autres personnes.
Ouais, voilà. Je pense que les personnes comme moi, qu'on appelle solopreneurs, qui sont chez eux tout seuls, je pense que c'est hyper important de garder le lien et effectivement d'aller quand même rencontrer d'autres entrepreneurs pour échanger sur les problèmes et puis avoir un soutien. Parce que sinon, si on reste vraiment tout seul tout le temps... Je pense qu'effectivement, ça devient compliqué.
Et puis même, je pense que le fait de sortir, ça te fait de la pub. Et puis, tu peux rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux clients. C'est enrichissant pour toi au final.
C'est ça, oui.
Et est-ce qu'au début, donc, quand tu as créé ton entreprise, tu n'as pas eu la problématique de la clientèle, que tu n'avais pas de clients? Comment tu as fait pour avoir de nouvelles personnes
Alors justement, donc c'est vrai que la majorité de mes clients, c'est des clients que j'ai rencontrés, alors soit que j'ai vu dans des réseaux, ou alors c'est du bouche à oreille, des gens que j'ai connus qui m'ont ensuite recommandé. Donc c'est pour ça que c'est hyper important effectivement le réseau. Après, c'est vrai que c'est toujours le problème parce que c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que t'as des mois, t'as des clients, t'es content, puis le mois d'après, il n'y a plus personne. Et puis c'est aussi vachement, par rapport à la conjoncture, c'est-à-dire qu'on voit certains mois quand on sait que là, ce mois-là, les clients, non, ça ne va pas le faire, il n'y en aura pas.
Ok. Et du coup, comment tu fais pour allier à ça les mois où ça va, où tu auras moins de clients par rapport aux mois où tu auras un peu plus de clients?
C'est vrai que là-dessus, alors actuellement, heureusement, j'ai un petit peu d'économie de côté, mais c'est vrai que c'est là où c'est le compliqué au niveau entrepreneur, c'est que pour la vision à long terme, parfois ça peut être assez dur et puis assez stressant de se dire, le mois prochain, est-ce que j'aurai des clients ou pas de clients?
Oui, parce que hier, justement, lors de l'afterwork, il disait que les autres entreprises comme ça, ou enfin en tout cas les PME, ça va de 3 à 5 ans. Est-ce que toi, tu as cette pression-là où tu dis, je fais ce que j'aime et on verra où ça me mène?
Disons que pour l'instant, je me dis... Je continue, parce qu'après le problème c'est qu'il y a aussi cette idée de se dire si on arrête et qu'entre temps ça avait après super décollé, donc t'es un peu tu dis non je veux aller jusqu'au bout, maintenant je me suis lancée, on y va mais après c'est vrai que on est parfois rattrapé par la réalité. Je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui des fois à côté soit arrêtent tout et reprennent un salariat ou alors prennent un job à mi-temps. On verra. Pour l'instant, pour l'instant, ça va encore. Après, on verra que ça va.
C'était vraiment pour pouvoir parler du côté entrepreneuriat.
C'est un problème que malheureusement, on rencontre. Enfin, à part vraiment ceux peut-être qui ça fait des années et puis qui ont vraiment une clientèle solide. Mais c'est vrai qu'au début, bien sûr, on rencontre tous ce problème-là où c'est un peu les montagnes russes et puis.
D'accord. Pour l'instant, on va reprendre cette émission dans un instant. On va juste écouter un petit son. Est-ce que tu as un son à nous faire écouter aujourd'hui?
Alors oui, je suis une grande fan de Muse. Donc du coup, on va écouter Muse et on va écouter les chansons Hysteria.
Merci, écoutons ça. We'll be right back.
Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
C'était Hysteria. Ah non, c'était Muse avec Hysteria.
Bah, Hysteria, c'est le titre de la chanson et Muse, c'est le groupe.
D'accord. Ok, donc c'était Muse avec Hysteria. Enfin, interprété Hysteria. Alors, on va reprendre avec toi, Elodie. Tu vas toujours bien?
Toujours.
Parfait. Donc, graphiste, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans ton métier de graphiste?
Ouais. Alors, du coup, donc, comme je disais, je suis plutôt spécialisée logo identité visuelle. Donc, ma prestation phare, c'est vraiment voilà, la création de logo ou éventuellement la refonte de logo. Sachant que je propose aussi une prestation de logo éco-conçu, enfin d'identité visuelle éco-conçue. Donc, ça peut être, par exemple, pour une entreprise qui se soucie de l'environnement, qui a mis en place une politique RSE, elle peut se dire, tiens, mon identité visuelle, elle n'est pas top, on peut faire une identité visuelle éco-conçue. Alors là, je vais peut-être développer un peu, parce que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Donc, bah, le secteur de la communication, il pollue comme plein de secteurs, donc avec notamment l'encre, voilà. Et on a des petits principes qu'on peut mettre en place pour limiter cet impact. Donc, ça va être notamment d'éviter des gros aplats de couleurs, d'avoir des éco-couleurs. Donc, ce qu'on appelle éco-couleurs, c'est des couleurs qui ne dépassent pas 100% de taux d'ancrage. On peut avoir des polices plus fines aussi pour limiter, donc vraiment, voilà, et avoir donc une identité visuelle qu'ensuite on va pouvoir décliner sur flyer, carte de visite, et qui du coup à l'impression va avoir un impact un peu moindre, quoi.
Ok. Et toi, du coup, quels sont tes clients par rapport au graphisme?
Alors du coup, c'est plutôt soit indépendant, soit petite entreprise. Voilà, parce qu'en général, les grosses entreprises, ça va être l'agence de com. Donc moi, je suis plutôt plus petite.
D'accord.
Et puis, voilà, c'était tout ce que je voulais dire.
D'accord. Et du coup, aujourd'hui, si un client vient te contacter, quelle est la démarche que tu vas avoir avec cette personne? Est-ce que tu vas la suivre? Est-ce que si elle n'a pas forcément d'idée sur ce qu'elle a envie de renvoyer sur son logo, tu vas l'aider par rapport à ça? Ou enfin, en tout cas, comment ça se passe?
Alors, ça se passe en général, on fait un premier rendez-vous où du coup, j'apprends à connaître la personne et j'apprends à connaître son entreprise, où j'ai un milliard de questions à lui poser. Où voilà, j'essaie de comprendre les valeurs de l'entreprise, vraiment ce que fait la personne, ses clients cibles, ses concurrents, ce qu'elle veut renvoyer comme image. Aussi, je lui demande ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas en termes d'identité visuelle, s'il y a des logos qu'elle aime bien ou des choses que non, pas du tout. Et donc ensuite, moi, suite à cela, je fais vraiment un gros travail de recherche sur ce qui se fait sur le secteur. Je travaille aussi la psychologie des couleurs, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines couleurs qui suscitent certaines émotions. Donc, en fonction des valeurs de l'entreprise et ce qu'elle veut renvoyer, il y aura certaines couleurs qui vont plus ou moins s'imposer. Et ensuite, donc, suite à ça, moi, je présente à mon client environ 3 à 4 logos, pas plus parce qu'après, sinon, il est perdu. Et on fait donc, suite à ça, un premier rendez-vous où la personne me dit, ça me plaît, ça me plaît pas. Si ça lui plaît pas, on voit ce qu'on peut retoucher. Et moi, au final, de toute façon, je retouche le logo jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite et que son logo lui plaise. Voilà.
D'accord. Et du coup, est-ce que même si on n'a pas forcément... si justement on a une idée de notre logo et qu'on vient te voir, ça peut quand même se faire, pas besoin...
C'est possible aussi, effectivement. Donc après, ça ne sera pas la même prestation, parce qu'effectivement, si la personne a vraiment une idée de son logo et que je n'ai pas tout le travail de recherche à faire derrière, forcément, c'est une prestation qui est moindre que la prestation complète. Mais ça se fait aussi très bien. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu 2 clients comme ça... Et au final, ils étaient contents de leur logo.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur le côté écologie dont tu travailles?
Ouais, du coup, donc, comme je te disais, c'est mettre en place vraiment des principes pour que l'identité visuelle, elle pollue moins. Après, il y a aussi tout un tas de principes qu'on peut faire aussi sur le web, notamment sur les sites web, pour avoir des photos qui vont être moins lourdes, ce genre de choses. Donc, il y a tout... plein de petits principes à mettre en place pour optimiser et puis limiter ainsi son impact environnemental.
D'accord. Parce que du coup, c'est vrai que quand on parle de logo, on voit pas forcément le côté environnemental. Enfin, moi, personnellement, je vois pas forcément le côté environnemental. Et du coup, c'est-à-dire que là, par rapport à certaines couleurs, par rapport à certaines façons d'écrire, ça réduit l'impact écologique.
Ça réduit en fait ton encre sur le papier et donc du coup, forcément, ça réduit ton impact environnemental.
Ok, parce que tu parles de papier, tu fais pas forcément que des logos.
Ton logo, il est comment tu peux l'utiliser aussi sur les sites internet et tout ça. Après, ça va être un jeu. Alors, sur les sites, c'est un peu plus différent parce que si on veut être éco-conçu sur un site, par exemple, il faut que le site soit en noir.
Ok.
Parce que du coup, le fait d'avoir du pixel blanc, ça va consommer plus. Donc après, c'est encore une autre façon de voir.
D'accord. Ok, et du coup, là maintenant, s'il y a un client qui veut te contacter, comment on arrive à te joindre?
Alors, bah, il y a trois possibles. Enfin, je ne sais pas si je dis trois. Enfin, il y a mon site internet, voilà.
Ouais. Tu peux le citer, du coup, s'il te plaît.
Alors, donc, c'est ed-graph, donc -du-site-graph.com. Mm-hmm. Donc, là-dessus, vous allez avoir aussi les liens vers tous mes réseaux sociaux.
Okay.
Et notamment mon profil LinkedIn, pour ceux que ça intéresse, tous les lundis à 17h, je publie un post sur l'explication d'un logo célèbre.
D'accord.
Où, du coup, j'explique comment il a été créé, son histoire et tout ça. Donc voilà, c'est, moi personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Après, Donc si les gens s'intéressent, voilà, sur mon profil LinkedIn. Et donc, bah, on peut me joindre soit par téléphone, soit par mail.
Ouais.
Donc tu veux que je dise, mais ou pas forcément.
Bah, on mettra ça
voilà,
en description
et puis sur le site, de toute
YouTube,
façon, tout est écrit. Voilà,
d'accord. Donc, et du coup, justement, là, tu parles des explications des logos connus, c'est ça?
Ouais.
Et d'où ça t'est venu
Alors, figure-toi que je me posais la question l'autre jour. Je ne sais pas. J'en discutais avec quelqu'un l'autre jour et puis je me suis dit, mais comment ça m'est venu? Parce que finalement, j'ai commencé à faire ça.
Ouais.
Parce que bah, moi, ça m'intéressait de savoir que tel logo Nike, il avait été fait comme ça, que ça venait de telle chose et voilà.
Ah, c'est toujours très intéressant de savoir.
Oui. Ouais, et puis donc pour moi, pour mon boulot, finalement, ça, c'est hyper pertinent parce que du coup, bah, je comprends pourquoi tel graphiste a fait tel choix, voilà. Et puis ça a commencé à bien marcher. Maintenant, j'ai plein de gens qui finalement bah, m'en parlent quand je vais dans des afterwork et tout. Oh, tes posts, c'est génial et tout. Donc finalement, j'ai continué. Mais c'est vrai que je ne me rappelle pas la genèse de pourquoi, enfin, à quel moment je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Des fois, on a des idées comme ça.
Ouais, du coup, c'était peut-être juste pour développer sur ton travail.
Ouais,
pour
c'était voilà, pouvoir parler de logo et voilà. Et je, mais vraiment, je me rappelle plus à quel moment je me suis dit, tiens, c'est ça que je vais faire.
D'accord. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les problématiques que tu rencontres dans ton travail, par exemple, quand tu as de nouveaux clients ou si. Il y a, je ne sais pas comment expliquer ça, quand tu as de nouveaux clients justement, et peut-être que ça est déjà arrivé, vous n'arrivez pas à trouver de logo qui fonctionne pour la personne là ou...
Alors, jusqu'à maintenant, je touche, je ne sais quoi, mais jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que j'ai eu, par exemple, des clients où c'était un peu plus compliqué, il a fallu rechercher, mais au final, on a toujours réussi à trouver, voilà, parce que... Bah, quand du coup, ça ne matche pas du premier coup, que la personne me dit « Ah bah non, ces logos-là, ils ne me plaisent pas », on rediscute. Je lui demande qu'est-ce qui lui plaît pas justement pour bah vraiment et donc ça fait un peu finalement comme un entonnoir, c'est-à-dire que petit à petit bah, on arrive vraiment au voilà on arrive à la... Après faut que la personne bien sûr elle sache ce qu'elle veut parce que c'est sûr que si elle elle-même ne sait pas ce qu'elle veut c'est un peu compliqué pour moi aussi parce que moi forcément je colle par rapport à ce qu'elle me dit donc si après elle me dit ça et puis que le lendemain c'est l'inverse c'est sûr que du coup c'est un peu compliqué quoi. Mais bon jusqu'à maintenant voilà on a toujours réussi à trouver Et mais jusqu'à maintenant, mes clients sont contents.
D'accord.
Et c'est le principal, c'est ce qui... Voilà,
c'est le plus important.
J'essaye de toujours les satisfaire, voilà.
Ok. Et du coup, est-ce que toi, tu fais de la recherche de clients ou c'est plus les clients qui viennent à toi?
Alors, j'essaye d'en faire un peu. Après, je t'avoue que c'est un peu compliqué parce que bah, les créateurs d'entreprises, soit ils ne sont pas encore créés, donc tu ne les connais pas. Et quand ils commencent à être créés, bah, souvent, soit ils ont déjà l'identité visuelle. Donc, c'est un peu de ce côté-là compliqué. C'est pour ça que là, je me suis un peu dirigée plus à cibler des gens en refonte d'identité visuelle. Après, les autres clients, effectivement, que j'ai eus, c'est plus des gens qui sont venus à moi.
Ok, d'accord. Par rapport à tes clients, justement, je sais que bah, du coup, vous travaillez par rapport aux couleurs. Mais est-ce que t'as des couleurs de préférence que tu mets ou c'est vraiment par rapport au client que tu choisis la couleur?
Alors non, c'est vraiment... Alors même si moi j'ai des couleurs de prédilection, on va pas se mentir, mais c'est vrai que normalement c'est vraiment en fonction du client, en fonction des valeurs de son entreprise et en fonction de son secteur d'activité, parce qu'après t'as certains secteurs d'activité où finalement... Alors tu peux prendre le contre-pied et puis faire carrément une autre couleur, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont vraiment... bah, ça va être que du bleu par exemple, toutes les entreprises elles sont en bleu ou elles sont en rouge ou... et donc des fois bah, t'es obligé un peu de coller quand même à ça. Après c'est vrai que parfois je reconnais qu'il y a des palettes de couleurs qui me plaisent pas à moi, mais ça colle par rapport à l'identité du client et lui ça lui plaît, donc c'est le principal au final, c'est à lui que ça doit plaire à la fin puisque c'est son identité visuelle. Donc
D'accord. Et du coup, est-ce que dans tous les projets que tu fais tu gardes, bah, du coup, tu gardes forcément une trace de ton travail.
Ouais.
Et donc, quand il y a des nouveaux clients, tu représentes ce travail-là ou, tu...
Ah non, c'est unique à chaque fois. C'est-à-dire que
non.
Je...
Non,
c'est...
Ah non, enfin,
c'est pas ça la question.
Ah non, c'est pas que tu représentes le travail que tu as déjà fait, mais par exemple, un portfolio, on va dire.
Ah oui, que... oui. Je... Bah, déjà, sur mon site internet, il y a le portfolio, donc les gens peuvent voir mes réalisations. Et après, s'ils veulent en voir plus, effectivement, oui, je peux leur montrer ce que j'ai fait, voilà, pour qu'ils puissent voir mon travail. Après, c'est logique, effectivement, quand tu choisis un graphiste, de savoir un peu.
Bah, oui.
Parce qu'on a tous un peu notre patte, donc de savoir un peu vers quoi il part. Voilà, moi, je sais que je suis plus tout ce qui est très fin, très minimaliste et tout. Donc après, ça peut plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Donc effectivement, il faut qu'ils puissent voir quand même ce que je vais à peu près leur proposer, sachant que ça sera quand même du sur-mesure et que si la personne, elle me dit... Moi, je veux du rouge, même si, voilà, c'est pas forcément... je vais lui faire du rouge, quoi, tu vois, mais...
Ok, même si j'ai la personne, elle dit, ouais, j'aimerais avoir un logo un peu... avec plus de trucs minimalistes.
Alors après, à la fin, c'est elle qui aura le dernier mot. Par contre, moi, je vais essayer de lui faire comprendre les principes d'un logo, parce que, par exemple, un logo, normalement, ça doit être simple, ça doit être mémorable, donc forcément, il faut pas qu'il y ait 36 trucs sur le logo. Ouais. Il faut qu'il soit polyvalent, parce qu'il faut que tu puisses le mettre sur une carte de visite, sur un stylo, sur... Donc, plus tu as de petits détails, plus ton logo, finalement, il est dénaturé. D'ailleurs, on le voit, tous les logos célèbres, finalement, ils sont très simples. Hein. C'est des trucs compliqués, quoi, donc...
D'accord. Et est-ce que tu as des entreprises avec lesquels tu travailles le plus, des secteurs d'activité où c'est vraiment...
Non, franchement, jusqu'à maintenant, j'ai eu un peu de tout. Enfin, un peu de tout, j'ai pas eu tout, parce que voilà, mais j'ai pas eu deux fois la même chose, tu vois, c'était vraiment varié. Alors, c'est hyper intéressant, parce que du coup, comme à chaque fois, moi, pour faire le logo, je m'inspire de l'entreprise, pour bien comprendre ce qu'elle fait et tout, donc ça me permet, du coup, de connaître plein de nouveaux secteurs d'activité, donc pour moi, c'est enrichissant aussi, quoi.
D'accord. Et du coup, par rapport à ton travail, je pense que... Enfin, j'imagine qu'il faut beaucoup, beaucoup d'imagination. Est-ce que ça t'est déjà arrivé comme ça, de pas forcément avoir... le visuel du client qu'il aimerait avoir, un manque d'imagination, on va dire.
Alors, jusqu'à maintenant, non. Disons qu'après, ça prend plus ou moins de temps. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours venu à un moment. Mais c'est vrai que ça m'arrive des fois à un moment de dire, tiens, je vais me mettre dessus. Et puis finalement, je suis devant et puis... ouais, non, là, ça vient pas. Mais bon, jusqu'à maintenant, voilà, c'est toujours venu à un moment.
D'accord. Du coup, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que aujourd'hui, pour les gens qui t'écoutent, t'as un message à leur faire passer ou faire ta petite pub, tout simplement
Alors, un petit message, je vais vous donner mon super slogan.
Ah oui. On a hier, on avait envie de leur entendre.
Donc, une identité visuelle, c'est essentiel pour devenir exceptionnel. Donc, contactez-moi.
D'accord. Elles sont où, ce slogan
Écoute, je me suis dit, il faut un slogan parce que c'est ce qui reste. Ouais. Voilà, quand tu passes, tu fais des pitchs et tout, et que les gens, des fois, il faut un truc qui reste.
Ouais.
Et des fois, les slogans, ça marche bien, en fait. Ça te reste dans la tête. Par exemple, Carglass répare, Carglass remplace, par exemple. Hein, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, fais un slogan qui rime. Mm-hmm. Comme ça, les gens, ils vont se souvenir de toi. Et puis, effectivement, ça marche. À chaque fois, les gens, ils disent, ah oui, le slogan.
Ouais, c'est vrai qu'hier, quand tu l'as sorti à l'After Rock, c'était bien. On l'a bien retenu. Du coup, tu peux rappeler tes réseaux sociaux, s'il te plaît
Oui. Alors, du coup, donc, j'ai LinkedIn principalement, donc sous Élodie Dubrulle, on le trouve. Et puis, après, sur le site internet, il y a les liens, de toute façon, vers les autres.
Ouais.
Mais on va dire que c'est principalement LinkedIn, de toute façon.
D'accord. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Et puis je te souhaite que du bonheur pour la suite et que de la réussite pour ton entreprise. Voilà.
Merci. Puis merci de m'avoir invité.
De rien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est.